En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Parlons de l'électronique entre 1900 et 2015 et de son influence sur la défense, sur les armées, sur les armements. Ce que je voudrais faire au cours de cet exposé, c'est tenter de démêler qu'est-ce qui, dans les progrès de l'électronique à l'intérieur des armes, provient, excusez-moi de parler anglais pendant un instant, mais j'ai pas de bonne traduction, du technology push ou du military pull. C'est-à-dire, le technology push, c'est l'offre, c'est-à-dire c'est la technique qui progresse et qui permet de faire des armements plus sophistiqués. Et le military pull, c'est la demande, c'est le fait que les militaires, parce que les circonstances ont changé, parce qu'ils se sont aperçus de telle ou telle caractéristique, et j'y reviendrai dans le détail plus tard, demandent qu'on leur fournisse un armement qu'on ne leur fournissait pas auparavant. Alors parlons des débuts d'abord. Ce que j'appelle les débuts, c'est la période de 1900 à 1914. La triode, un certain nombre d'entre vous, mais s'ils n'ont pas fait d'études scientifiques, doivent se rappeler de cette lampe avec une grille, une anode, une cathode. Et puis quand on chauffait, il y a des électrons, un nuage d'électrons qui se produisait, et ensuite on pouvait moduler un signal grâce à ces électrons. Ça date de 1903, l'invention de la triode. Et ça permet de faire un certain nombre de choses sur lesquelles j'entrerai pas dans les détails, mais qui en particulier permettent de transmettre de l'information et en tout simplement permettent de transmettre de la voix à distance. Et donc, pour moi, de développer à ce moment-là le télégraphe, le téléphone et le théâtrophone. Alors le théâtrophone, je l'ai écrit, ça a fait du rouge par mon ordinateur. J'ai essayé de regarder comment l'ordinateur corrigeait théâtrophone. C'est un mot qu'il ne connaît pas. Le théâtrophone, c'était la possibilité d'écouter le théâtre de chez soi en téléphonant au théâtre ou à un service qui était associé au théâtre. Si je signale ceci, on retrouve le mot dans des pièces de théâtre de l'époque où une dame dit à une autre dame « Je vais écouter Manon ou autre chose au théâtrophone ». C'est parce qu'il était tellement difficile de prévoir qu'est-ce que l'on allait faire de la possibilité de transmettre de l'information. On dit qu'Edison voulait transmettre les concerts de Baltimore à Washington. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, quand on sait qu'on va pouvoir transmettre la voix à distance, on ne sait vraiment pas quelle voix on va transmettre à distance et à quelle occasion. Et on ne pense pas aux applications militaires pendant quelques années, puis on commence à penser que les militaires ont envie de se parler, ils ont envie de se parler à distance et ils envoient des estafettes pour ça. Et ce n'est pas rapide. Et il y a une multitude de grandes défaites napoléoniennes, par exemple, vous voyez, à laquelle je fais allusion, pour laquelle l'information n'était pas passée au bon moment. Donc on va commencer à développer le télégraphe et la téléphonie sans fil. Et puis on a besoin depuis toujours, il y a un code de cryptage qui s'appelle le code César, on a besoin depuis toujours de crypter et de décrypter. Décrypter, c'est difficile, et décrypter, c'est encore plus difficile, c'est long, et ça incite des choses qu'on va pouvoir faire un peu mieux avec l'électronique, et qu'on fera surtout beaucoup mieux ou beaucoup plus compliqué 50 ans plus tard. En tout cas, pendant la guerre de 14, certains télégrammes, et en particulier un télégramme réputé comme ayant été le télégramme de la victoire, a été décrypté par un certain Pinvin, qui était le responsable du chiffre en 1918 et qui a permis de savoir comment les troupes allemandes allaient se placer et de placer les troupes françaises au bon moment. Ne me posez pas et ne me demandez pas de détails sur ces conditions, mais en tout cas, j'ai dit télégramme, j'ai eu tort. Le radiogramme de la victoire pendant la deuxième bataille de la Marne a été un élément à la fois de triomphe du décryptage, puisque le télégramme est décrypté, de triomphe du décryptage et de, non pas de démontrer l'importance du renseignement, parce que ça, les militaires le savaient depuis toujours, mais de montrer que ça pouvait se passer par l'intermédiaire de moyens techniques. Alors les deux hommes dont on se souvient à l'époque, c'est Pinvin d'une part, et puis le général Ferrier d'autre part, qui va développer les technologies correspondantes. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que l'unité de temps change et que le passage de l'information ne dépend plus de la distance. Ça dépend de bien d'autres choses, de la possibilité de le crypter, et puis ça dépend, comme toujours, de tout ce qui a permis ou d'avoir ou de ne pas avoir l'information. Et aujourd'hui encore, bien sûr, on a ou on n'a pas l'information en fonction d'autres éléments que la technique. Mais une fois qu'on a l'information, on peut la transmettre, et on peut la transmettre aux échelons élevés de la hiérarchie sans avoir forcément besoin de passer par tous les intermédiaires. Alors, une première conclusion, je ferai ces conclusions au fur et à mesure, à la fin de chacune de mes périodes. Est-ce que ça veut dire qu'on a fait beaucoup de progrès à l'occasion de cette guerre de 14? Bien sûr, on a fait des progrès, mais quand même. Quand on pense aux progrès qui ont été faits par les autres techniques pendant la même période, que ce soit la technique automobile, enfin le moteur à explosion, j'entends, avec les chars, que ce soit grâce au moteur à explosion aussi l'aviation, que ce soit les submersibles qui commencent et qui deviendront progressivement des sous-marins, et les autres projets qui vont conduire, par exemple, au porte-avions ultérieurement, on voit quand même que à ce niveau-là, on ne pouvait pas dire, à la fin de la guerre de 14, que tout avait changé par l'électronique. L'électronique était intervenue aussi. Mais enfin, c'est pas l'élément majeur. Alors, je continue mon voyage à travers le temps. Et j'arrive maintenant à une période que je trouve un peu décevante. Mais heureusement, la troisième et la quatrième période ne vont pas être décevantes du point de vue des progrès techniques qui se produiront. La période que je trouve un peu décevante, c'est la période de l'entre-deux-guerres. Parce que pendant cette période de l'entre-deux-guerres, ce qui se développe surtout, c'est la radio. Et la radio prend indirectement un rôle majeur dans la politique générale et dans le déclenchement de la guerre, mais un rôle politique, beaucoup plus qu'un rôle militaire. Alors ce rôle politique, c'est d'abord le rôle joué par la radio dans l'ascension d'Hitler. Tout le monde se souvient évidemment de Goebbels et d'Hitler. Et puis le rôle joué dans la radio immédiatement après, pendant la guerre. Il n'empêche que les progrès ne sont pas énormes. Pendant la guerre de 40, on dit que le général Gamelin aurait dit on a peut-être abandonné les pigeons voyageurs un peu tôt. Je ne sais pas si c'est apocryphe ou pas. Beaucoup de ces anecdotes sont apocryphes. Je peux en tout cas dire une anecdote personnelle. Je me souviens avoir, quand j'avais une vingtaine d'années, bavardé avec quelqu'un qui devait en avoir 45, qui était lieutenant d'artillerie en 1940, et lui avoir demandé comment s'était passé pour lui la déroute ou la défaite de 1940. Sa réponse a été immédiate: j'étais perdu. Il n'avait plus, il était lieutenant, et il n'avait plus de relation avec quiconque parce que la radio fonctionnait mal ou ne fonctionnait pas. C'est donc dans la radiodiffusion que les progrès ont été faits, dans les relations radio un peu, mais pas tellement. Et puis, c'est à ce moment-là qu'est née, par contre, une invention qui n'a pas encore de résultats concrets en 1939, mais qui existe, c'est le radar. Alors ça, c'était pas très prévisible. Les événements qui s'étaient produits auparavant permettaient de transmettre de l'information d'un endroit à un autre. Le radar, et il a été largement inventé en France, et il y avait un radar sur le Normandie, sur le bateau Normandie. Le radar va permettre, grâce aux ondes radio, c'est la radio localization pour radar, va permettre de savoir où est un objet, à quelle distance, dans quelle direction, de jour comme de nuit, et même quand il y a des nuages. Ce radar correspond aussi à la conquête par l'électronique de la gamme des longueurs d'onde. Vous savez qu'il y a un réseau de longueurs d'onde qui va des rayons X ou en deçà jusqu'aux grandes ondes de nos postes radio. Toutes ces ondes n'ont pas été maîtrisées, domestiquées de la même manière et à la même vitesse. Et en gros, c'est quand on commence à domestiquer les ondes centimétriques et décimétriques, ou plutôt décimétriques puis centimétriques, que l'on va pouvoir fabriquer des radars qui localiseront quelque chose. J'en arrive au troisième point, qui est, et on voit qu'à ce moment-là, l'électronique commence à devenir majeure. Elle est compliquée, elle est chère, elle utilise toujours ces objets qu'on appelle tantôt des lampes et tantôt des tubes, mais elle va avoir, évidemment, comme beaucoup d'autres techniques, mais alors cette fois-ci, sans doute plus vite que les autres techniques, des développements radicaux pendant la guerre entre 1940 et 1945. Alors d'abord, la TSF devient la radio. Tout à l'heure, j'évoquais Goebbels et Hitler. Il faut maintenant que j'évoque Churchill et que j'évoque la radio de Londres. La radio de Londres devient un moyen de communication avec les forces de l'intérieur, qu'elles soient en France ou ailleurs. Les radios, et puis la réception radio, la localisation radio, devient un moyen de communiquer à distance et plus ou moins discrètement. Le tititita de la radio britannique fait maintenant plus penser à la Seconde Guerre mondiale qu'à la symphonie de Beethoven. En même temps, les hommes politiques qui deviennent des dirigeants militaires, incontestablement Churchill est en même temps un dirigeant politique et un dirigeant militaire, Roosevelt également, les dirigeants politiques peuvent se téléphoner. C'était quand même pas le cas en 1914 ou en 1870. Roosevelt et Churchill ont des conversations à deux, et un détail historique, ils ont des conversations à deux avec une censeur qui écoute la communication et qui est censée couper immédiatement la communication si elle s'aperçoit que l'un des deux hommes politiques est en train de dire quelque chose qui risquerait d'être secret et d'être écouté. On raconte qu'elle a coupé la communication brutalement lorsqu'il y a brusquement quelque chose qu'elle n'a pas compris. Il s'agissait d'une plaisanterie vulgaire employée par Churchill. Alors l'électronique se développe, et elle se développe à toute allure à ce moment-là. Un exemple, les bombardiers de nuit peuvent se perdre et se demander où ils sont et chercher à savoir où ils sont. Et ils sont quand même trop loin pour que ce soit un radar puisse leur dire. Les Anglais développent une technologie que je signale pour montrer la complication de l'électronique de l'époque et quand même ce qu'on pouvait faire avec. Quand le pilote du bombardier était perdu, il appelait le centre avec lequel il était en relation à Londres et il lui demandait de lui dire dans quelle direction il était. Alors comme le centre de communication avait des goniomètres qui permettaient de connaître la direction, ça lui permettait sur la carte de tracer une droite et de répondre au pilote de bombardier, vous êtes sur cette droite. À ce moment-là, le pilote de bombardier faisait décrivait un cercle standard, et évidemment, au fur et à mesure, il déclarait ce standard, l'orientation par rapport au point d'où on le mesurait variait. S'il était près, elle variait beaucoup, s'il était loin, elle variait très peu. C'était une méthode extrêmement grossière de savoir non seulement dans quelle direction il était grâce à la première mesure, mais de savoir aussi à quelle distance il était grâce à la deuxième mesure. Et dans les mémoires d'un pilote de bombardement que j'ai lu une fois, il disait à quel point il faisait confiance à ceux qu'il avait, j'allais dire, au bout du fil, ce qui n'était évidemment pas le cas, et à quel point il avait apprécié, quand il était perdu, de toujours savoir à quel endroit il était, en quelques minutes quand même, enfin... J'ai plus l'information, mais c'est de l'ordre de à 2 ou 3 kilomètres près. Ce qui suffisait pour être sûr qu'on revenait ensuite en Angleterre. Alors l'électronique devient mobile, puisque ce que je viens de dire à l'instant nécessitait évidemment d'avoir des moyens de communication au sol et d'avoir des moyens de communication dans l'avion. Elle devient mobile au sens où les appareils électroniques sont devenus suffisamment petits, on les a miniaturisés. Et selon là, miniaturisés, je le réutiliserai tout à l'heure d'une autre manière. On les a suffisamment miniaturisés pour qu'on puisse mettre de l'électronique à bord des avions. De l'électronique qui permet de parler, et même des radars. Le radar aéroporté est inventé pendant la guerre. Et donc, les avions anglais ont des radars, les avions en allemand aussi après, même les avions japonais, grâce à des moyens tortueux pour les récupérer, il y a eu quelques radars sur des avions japonais. Enfin, non, pas enfin, c'est pas terminé, le walkie-talkie, enfin cet appareil bizarre qui s'appelle talkie-walkie en américain et qui s'appelle walkie-talkie, talkie-walkie en français, est aussi quelque chose qui a été inventé pendant la guerre. Les soldats américains arrivent en juin 1944 avec des talkie-walkie, ce qui va enfin permettre aux soldats de base de parler de parler avec son sergent aux heures prévues, à condition d'avoir prévu des vacations. On est très loin du téléphone portable d'aujourd'hui, mais quand même, avoir dans une section un soldat qui peut être en relation avec le monde extérieur, c'est pas pareil que d'être isolé complètement. Alors ça, c'est pour les télécommunications, mais pendant tout ce temps-là, l'électronique a commencé à traiter des données, et pas seulement à traiter des informations et à transmettre de la voix ou à mesurer des distances. Alors ça fait déjà un certain temps qu'on traite des données par des moyens mécanographiques. J'ai retrouvé qu'IBM avait été créé en 1911 et que l'on avait donc de cette manière-là d'abord pu traiter une multitude de données civiles. La technologie, tout à l'heure je parlais de technologie push, la technologie s'était donc appliquée dans le civil avec des machines mécanographiques, Industrial Business International ou Industrial Business Machine, IBM, c'est les business machines, c'est la comptabilité du commerçant ou de la grosse entreprise. Et donc, on commence à se rendre compte que puisque les tubes électroniques permettent de traiter des données, ça va permettre de traiter des 0 et des 1, ça va permettre de faire du cryptage, ça va permettre de faire des ordinateurs. Alors, c'est pas à l'ordinateur qu'on pense d'abord. Ce qu'on pense d'abord, c'est au cryptage, ou plus exactement au décryptage. Et là, il faut voir de l'importance de la guerre électronique dans la Deuxième Guerre mondiale à cause de la machine Enigma. Il ne s'agit pas de faire une conférence sur la machine Enigma, mais de rappeler que les Allemands avaient une machine à crypter, que cette machine avait été saisie, je ne sais par quel moyen, par les Polonais en 37 ou en 38, qu'elle avait été fournie aux Français en 39, qu'elle a été fournie aux Anglais en 40, et que les Anglais se sont retrouvés avec quelques exemplaires de la machine à crypter allemande. Et qu'à ce moment-là, ils ont mis tous leurs efforts mathématiques, et les efforts mathématiques des Anglais à l'époque, c'était Turing, dans une installation tout à fait secrète, qui s'appelle Bletchley Park, et qui est à quelques dizaines de kilomètres de Londres, je crois, qu'ils ont maintenu totalement secrète pendant toute la guerre et pendant plusieurs années après la guerre, et à l'intérieur de laquelle ils ont construit un ordinateur qui aurait permis de donner le prix Nobel à Turing si ça avait été les conditions à l'époque, qui s'appelait le Colossus, et qui est aujourd'hui considéré comme ayant été le premier ordinateur jamais construit, avant l'ordinateur construit par IBM aux États-Unis en 48. Cet ordinateur permettait donc de faire tous les calculs complexes, et auxquels je ne connais rien d'ailleurs, mais qui permettent en tout cas, quand on a un message crypté et qu'on sait un peu de quelle manière il a pu avoir été crypté, de simuler toutes les possibilités et de découvrir le message en clair. Alors l'important ici, c'est pas tellement de vous avoir raconté, j'ai pas envie de dire cette anecdote, c'est plus qu'une anecdote, mais enfin c'est cette petite histoire, mais de dire quelle importance elle a pu avoir dans la guerre. Les Britanniques prétendent avoir économisé 2 ans de guerre grâce à cette détection. Un officier ayant participé à des conférences internationales sur le cryptage et le décryptage, m'a dit avoir assisté à cette conférence où était un Allemand, qui, un peu énervé de la faconde britannique et de l'arrogance britannique, a fini par dire « Mais enfin, si vous étiez si fort que ça et si vous connaissiez tous ces messages, pourquoi est-ce que vous n'avez pas terminé la guerre 2 ans plus tôt ?» Et d'une manière très britannique, le Britannique lui a répondu « C'est ce qu'on a fait. » Il est exact, en tout cas, qu'on glorifierait beaucoup moins Montgomery aujourd'hui qu'on ne l'a fait immédiatement à la guerre, puisqu'il avait quand même la différence de se battre les yeux ouverts contre un Rommel qui avait les yeux bandés, puisque tous les messages qui arrivaient ou qui partaient de Rommel étaient connus de Montgomery et que le contraire n'était pas vrai. Donc, importance tactique, bien sûr, ça j'en ai déjà parlé longuement, mais là aussi, importance stratégique de la possibilité de crypter ou au contraire d'intercepter les communications. D'autres anecdotes existent depuis et que l'on pourrait raconter à plaisir. En tout cas, il est difficile de dire s'il y a eu push ou pull, s'il y a eu Il y a incontestablement eu une accélération de la demande pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans le domaine de l'électronique aussi. Il y a quand même eu également le fait que les techniciens, ceux qui inventaient des tubes de plus en plus petits, ceux qui inventaient des tubes fonctionnant à des fréquences de plus en plus élevées, ceux qui découvraient que l'on pouvait déterminer la distance et la direction d'une cible en lui envoyant une émission radar et en détectant, eh bien, c'était une augmentation de l'offre. Et nous sommes donc en 1945, quand c'était place finalement plus lentement que ce matin. Et donc, pour évoquer maintenant, il reste deux parties. Les 70 dernières années d'une part, que 45, ça fait 70 ans, puis ce qu'il va y avoir après. Alors, il y a quelque chose de très important en 1947, c'est l'invention du transistor. J'ai dit tout à l'heure que j'employais le mot miniaturisation et que j'emploierai plus tard les mots subminiaturisation et micro-miniaturisation. J'ai commencé à travailler en 1960 dans un bureau qui s'occupait de composants électroniques. Mon patron m'a dit, quand je suis arrivé, eh bien, il y a longtemps, c'était il y a 10 ans, on parlait de miniaturisation. Ensuite, on a parlé de subminiaturisation. Quand vous arrivez, on commence à parler de micro-miniaturisation. Et dans les mois qui ont suivi, je me souviens avoir entendu pour la première fois le mot nano-électronique. Pourquoi ? Parce que les physiciens se rendaient très bien compte, en 1960, à partir de transistors développés depuis 1947, et dont l'unité de mesure était un peu inférieure au millimètre pour ce qui est de la fabrication, ils se rendaient très bien compte que la partie vivante du transistor, l'endroit où les électrons se promenaient, et où ils étaient déplacés, modulés, de manière à ce que le signal soit transmis, c'était tout petit. Et que si on avait fait un gâchis monumental d'électrons dans la pentode, ou dans la triode, pardon, de 1903, on continuait à faire un gâchis tout à fait énorme d'électrons dans les gros transistors, c'est gros comme ça, hein, dans les gros transistors de 1960, et qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne descende pas à utiliser quelques électrons seulement pour transmettre l'information. Le phénomène physique était tout petit, et on allait progresser, on allait progresser bêtement. C'est-à-dire qu'on n'allait pas faire d'inventions extraordinaires, on allait faire des inventions technologiques pour pouvoir fabriquer des microcircuits de plus en plus petits, de plus en plus compacts. Et là, il faut que je vous dise à la fois qu'il n'y a pas de miracle, et j'aime bien utiliser des anecdotes pour cela. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du professeur Aigrin, qui a été secrétaire d'État à la recherche et au développement, ça devait s'appeler autrement. Je me souviens l'avoir entendu dire dans les années 60 que faire un circuit intégré plus de 10 composants, ça serait vraiment très difficile, parce que si le rendement était même de 0,99 pour le premier composant, 0,99 à la puissance 10, ça faisait pas beaucoup, et qu'on n'arriverait jamais à faire des circuits de plus de 10 ou 15 composants. Puis c'est pas 10 ou 15 qu'on fait, c'est 10 millions aujourd'hui. Et plus personne ne s'amuse à élever je ne sais quel chiffre à la puissance 10 millions pour mesurer le rendement de fabrication d'un circuit intégré. Il y a des millions de transistors, voire des dizaines de millions, à l'intérieur d'un circuit intégré. Je me souviens encore, excusez-moi de raconter mes campagnes, d'avoir rencontré le fameux Moore lors d'un voyage aux États-Unis, le Moore de la loi de Moore, qui fait que tous les ans, tous les deux ans, on double la puissance, on augmente la vitesse, etc. Il a eu une phrase très significative. Il m'a dit, attention, il n'y a rien de miraculeux dans cette loi. C'est seulement le résultat de notre travail quotidien et de la manière dont nous améliorons quotidiennement nos technologies. J'arrête là simplement pour dire que donc, il n'y a pas, dans les années 60, dans les années 70, en dehors de technologies que les spécialistes connaîtraient, de découvertes extraordinaires, et qu'on se contente d'améliorer la technologie du circuit intégré monolithique inventé par Texas en 1958-60, et à la poursuivre indéfiniment, excusez le terme, mais de manière continue. Et donc, le technology push, cette fois-ci, est flagrant. Certes, les militaires, à chaque instant, trouvent des applications au circuit intégré qu'on leur donne, puis les civils aussi, jusqu'à l'iPhone, à l'ordinateur qui est là, etc. Hein? Mais il est clair que c'est pas une demande qui a été exprimée, c'est bien, à mon avis tout au moins, la technique qui a fourni quelque chose et qui ensuite a donné comme application l'électronique, l'informatique embarquée, le guidage, les missiles, les drones, les satellites d'observation et de télécommunication, le GPS que vous utilisez tous et dont je suis étonné qu'on ne dise pas à quel point il est extraordinaire. Le GPS, c'est comme si on avait mis les méridiens et les parallèles qui entourent le globe terrestre physiquement autour de la Terre, ce qui fait qu'à chaque instant, il y aurait marqué « vous êtes sur tel méridien et vous êtes sur tel parallèle ». C'est ça que vous permet le GPS, par l'aide de quatre satellites à haute altitude. Et puis, il y a le téléguidage, il y a l'autoguidage, il y a la télémesure, il y a le télécommande. Enfin, mon vocabulaire abandonne tellement le nombre d'applications pratiques de l'électronique et très concrètement du circuit intégré. Il n'y a pas que le circuit intégré, il y a la fibre optique, il y a d'autres choses, mais enfin surtout du circuit intégré. Ça a des conséquences majeures sur la défense, ça a des conséquences sur la précision des frappes. Par exemple, quand on a fait des missiles tels que les V2, les V1 d'abord, les V2 ensuite, sans avoir d'armes nucléaires au bout, ça n'a eu aucun effet. Ça a été désagréable pour un certain nombre de Britanniques, mais ça n'a pas eu d'effet stratégique. Quand ensuite on a fait les mêmes missiles, toujours aussi peu précis, avec des armes nucléaires, ça aurait eu, si on les avait utilisés, puisque heureusement on ne les a jamais utilisés, des effets stratégiques majeurs. Et puis aujourd'hui, on revient à des missiles avec des têtes classiques, parce que vu la précision de l'impact, on peut avoir un effet militaire majeur à partir de missiles. Ça a donc des effets sur la précision des frappes et les conséquences que je viens de dire à l'instant, sur le renseignement, sur l'observation. Et puis, je ne vais pas m'étendre sur la guerre dans le cyberespace, mais on pourrait faire toute une conférence sur les conditions dans lesquelles on peut développer des virus ou au contraire se protéger des virus avec la multitude des objets qui sont connectés. Il paraît qu'une voiture ou un avion sont connectés de plusieurs manières avec le monde extérieur. Et ça fait un peu frémir, d'ailleurs, quand on se dit qu'un avion est connecté avec le monde extérieur et qu'on peut lui envoyer des virus. Et ça a eu aussi des conséquences sur la remontée du pouvoir à l'intérieur des armées et entre les armées et le monde politique. Tant pis, je vais raconter une anecdote de plus. J'ai eu la chance de rencontrer une fois M. Messmer, quand il était à l'Académie, parce que je lui faisais faire une conférence dans l'école dont j'étais responsable. Je me suis dit quand même aller rencontrer un ancien Premier ministre et qui était là au moment où on a créé la délégation générale pour l'armement où j'ai travaillé pendant 50 ans. Je vais faire mon devoir, c'est-à-dire lui dire ce qu'est mon école et ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on fait avec un conférencier. Mais je vais quand même profiter de ce que je suis avec lui pour lui demander pourquoi il a créé la DGA en 1961. Donc j'ai attendu poliment que les 25 premières minutes soient passées pour utiliser les 5 dernières minutes à lui demander. Et la réponse a été évidente. La réponse a été évidente. Il m'a dit « Oh, mais c'est qu'à l'époque, on savait très bien que l'avenir, les 10, les 20 années qui suivaient, ça allait être l'électronique et la technique qui allait commander pour ce qui était de la défense. On savait qu'on allait avoir des missiles qui tireraient vers d'autres missiles. » C'est exprès que j'ai copié le geste qu'il avait fait à cette occasion. Un ministre de la Défense, aujourd'hui, ne pourrait plus dire la même chose. Et j'y reviendrai quand je parlerai de l'avenir. Donc quand on est en 60-61, on se rend très bien compte, et si on s'en rend compte, c'est aussi parce qu'on a fait des missions aux États-Unis et qu'on a rencontré McNamara et les Whiskey de Kennedy. À l'époque, c'était leur surnom. Donc non seulement c'est un véritable foisonnement que l'on voit depuis l'invention du transistor, je dirais, depuis 1947, mais c'était prévu, c'était compris. Alors, ça m'amène à la fin de mon exposé. J'ai encore quelques minutes pour parler de demain et d'après-demain. Remarquons d'abord, moi j'aime bien la rétro-prospective, qu'on n'a pas prévu les missiles à tête nucléaire. Il paraît que nous avons un rapport dans lequel un ingénieur de l'armement, qui pourtant a été brillant ensuite, a fait une mission en Allemagne en 1946-47 et a dit que les V2, ça menait nulle part. Et c'était vrai. Sans armes nucléaires, à l'époque, ça menait nulle part. On n'a pas prévu les satellites de télécommunication. Il a fallu l'épisode de Kolwezi pour qu'on se rende compte que c'était quand même vraiment gênant d'avoir un commando à l'autre bout du monde, enfin pas tout à fait, mais assez loin, et de ne pas savoir ce qui se passait, d'être obligé de demander aux Américains. On n'a pas prévu, ça je pourrais en témoigner personnellement, l'avion stealth. On n'a pas prévu Internet. Bien sûr, on a prévu qu'il y aurait des télécommunications, mais on n'a pas prévu la manière dont elles se dérouleraient. Enfin, on n'a pas prévu les drones. Je regrette toujours de ne pas avoir chez moi le compte-rendu, qu'en théorie, je n'avais pas le droit de garder, mais qu'effectivement, je n'ai pas gardé, qui était un compte-rendu de mission en Israël en 1989. C'était une des premières nouvelles missions en Israël, après une longue période de réfrigération des relations. Nous avons d'ailleurs été accueillis avec un certain nombre de plaisanteries qui n'étaient pas forcément excellentes. Et j'ai eu des conversations avec les gens qui faisaient des drones à l'époque, qui envoyaient des drones au-dessus du Liban, et qui, m'ont-ils dit, avaient été étonnés de les voir revenir. Ils avaient envoyé des drones d'observation, ou des petits drones, ça ressemblait plus à des avions d'aéromodélisme. Mais enfin, c'était quelque chose sur lequel on pouvait déjà mettre un petit ordinateur et une caméra. Puis ils étaient revenus, et ça les avait conduits à en faire plus. Mais je crois qu'il doit être bon pour l'estime que je peux avoir de moi-même que je ne lise pas le compte-rendu en question, car je ne me rappelle pas du tout avoir indiqué que les drones en question avaient un avenir militaire important, et surtout pas qu'on se mettrait à mettre des armes sur ces drones. Autrement dit, c'est pas facile de prévoir l'avenir, c'est pas facile de prévoir les avancées technologiques, mais c'est encore moins facile de savoir, même si on a de bonnes idées, comme je vous l'ai dit, on avait de bonnes idées sur le développement des circuits intégrés. On savait qu'on micro-miniaturiserait. Par contre, ce qu'on ne savait pas du tout, c'est à quoi servirait la micro-miniaturisation. Je me rappelle de quelqu'un à l'époque où la Citizen Band se développait mal. Vous savez, la possibilité de parler par radio. Il y avait quelques camionneurs qui avaient ça pour s'indiquer les limitations de vitesse les uns aux autres. Cet homme était un dirigeant de l'électroménager chez Thomson. Il m'a dit, mais non, tout ça, ça servirait. Les gens n'ont rien à dire. Ils écoutent, mais les gens n'ont rien à dire. Ah ben aujourd'hui, s'il est toujours vivant, il doit s'apercevoir qu'avec Internet, les gens ont à dire quelque chose. Donc, j'insiste là-dessus très fortement. L'offre, c'est difficile à prévoir, mais la demande, c'est bien pire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'offre et qu'est-ce qu'on peut dire de la demande? Et ça va un peu être ma conclusion. D'abord, pour ce qui est de l'offre demain, on peut encore prévoir que la loi de Moore n'est pas finie. On peut penser que les circuits intégrés gagneront encore plusieurs fois un facteur 10. Ça fait beaucoup, mais personne n'est capable de dire si c'est deux fois, trois fois, un facteur 10. On aura toujours donc des big data de plus en plus big. Moi, j'en suis déjà à avoir plusieurs téraoctets chez moi. Est-ce qu'on aura des ordinateurs quantiques? Là, je suis un peu obligé de déclarer forfait. J'ai toujours pas compris ce que c'était qu'un ordinateur quantique. Enfin, il semble, d'après ce que je lis, que si on arrivait à des ordinateurs quantiques, on aboutirait à des capacités de calcul extraordinaire. Pour ce qui est de l'instantanéité, ben on va à la vitesse de la lumière maintenant. On en est, donc je ne pense pas qu'on fasse énormément de progrès. Et puis il y a l'intelligence artificielle qui nous réserve certainement des surprises, dont certains croient qu'elles seront très positives et dont certains craignent au contraire qu'on tue l'homme par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle. Pour vous signaler jusqu'où vont les élucubrations, je n'hésite pas à le dire de certains, il y a des religieux américains, c'est toujours aux États-Unis qu'on trouve ce genre de religieux, qui disent que si les ordinateurs deviennent intelligents, ben, il faudra les baptiser. Les baptiser, évidemment, au sens religieux, pas au sens de leur donner un nom. Alors ça, c'est pour l'offre. Alors la demande, maintenant. Est-ce qu'on voudra des robots? Est-ce que les militaires voudront des robots pour ne pas avoir de mort? Moi, mon sentiment, pour l'instant, c'est qu'on veut du zéro mort quand on n'y attache pas vraiment beaucoup d'importance. Les Américains voulaient du zéro mort en Yougoslavie, parce que la Yougoslavie, c'était pas très important. Après le 11 septembre 2001, ils ont accepté plusieurs milliers de morts dans les années qui ont suivi, alors qu'on ne s'attendait pas à ça de l'Amérique de Clinton. Mais enfin, peut-être. Est-ce qu'on veut un cryptage qui soit indéchiffrable? Est-ce qu'on veut, au contraire, être capable de déchiffrer absolument tout? Et est-ce que le quantique, dont je parlais tout à l'heure pour dire que je ne savais pas ce que c'était, permettra de faire l'un ou de faire l'autre? Est-ce qu'on voudra faire la guerre dans l'espace? Ce que pour l'instant, on ne fait pas. On utilise l'espace pour faire la guerre, mais on ne fait pas l'espace dans la guerre. Mais si c'était le cas, ce n'est pas tellement l'électronique qui aurait fait des progrès, c'est surtout qu'on aurait mis des armes sur les satellites, ce qu'on a envisagé. Est-ce qu'on descendra très en dessous du nanomètre, le millième de micromètre, le millième de micron, pour ce qui est de la fabrication des objets. Mais Et c'est là que je voudrais en venir, et j'ai fini dans quelques instants. Est-ce qu'il y a une invention, j'emploie invention dans un mot très fort, qui soit produite depuis 50 ans et qui puisse nous laisser penser que dans les 50 ans qui viennent, on va développer ces inventions pour faire des applications? Les inventions sur lesquelles nous nous sommes appuyés depuis que M. Messmer était ministre de la Défense ou depuis qu'on a inventé le transistor portent toutes sur des inventions de la fin du XIXe siècle ou de la première moitié du XXe siècle. Les inventions auxquelles sont attachés les noms de Einstein, de Bohr, etc. etc. Depuis 1950, quelle invention extraordinaire y a-t-il eu? Quelle découverte, je ferais mieux de dire, pardon, j'ai eu tort d'employer le mot invention, quelle découverte exceptionnelle y en a une? Moi, je n'en vois qu'une, la structure de la double hélice de l'ADN. On a fait des progrès en biologie qui permettent aujourd'hui de faire des choses qui seraient considérées comme miraculeuses avant qu'on sache ce que c'est que l'ADN. En biologie, je pense que les biologistes aujourd'hui sont dans une période de progrès qui est comparable à la période de progrès de l'électronique des années précédentes. Mais est-ce que l'électronique, même les autres techniques, durent, à mon avis, autres que la biologie, nous réservent dans les 50 ans qui viennent quelque chose d'analogue à ce qui s'est passé dans les 50 ans précédents? J'ose dire que je ne crois pas. Évidemment, on est toujours accusé quand on prévoit que le progrès est terminé, que ça va ralentir. On est toujours accusé de faire la même erreur que les physiciens de la fin du XIXe siècle qui ont écrit, paraît-il, « Nous avons tout trouvé maintenant, il ne nous suffit plus que de quelques réglages ». C'était complètement faux. Donc il y a un risque à dire que ça ira moins vite. Je me contente en tout cas de dire que je ne vois rien dans les dernières découvertes exceptionnelles. Alors bien sûr, il y a le boson de Higgs, mais est-ce qu'il est fou de dire qu'avant qu'on fasse la guerre avec des bosons de Higgs, c'est pas quelques dizaines d'années qui vont se produire, c'est beaucoup, beaucoup plus longtemps. Je peux me tromper de beaucoup, je crois pas, évidemment, si je croyais que je me trompais, je le dirais pas. Je peux me tromper de beaucoup, mais sauf à faire la guerre biologique, évidemment, changer l'ADN de l'adversaire, etc. Je n'évoque pas cette partie-là, mais sauf à utiliser la biologie, je ne vois pas en quoi on pourrait, dans les décennies qui viennent, pas dans les siècles qui viennent, mais dans les décennies qui viennent, après tout, sur la période dont je viens de parler, 1903-2015, il y a 115 ans, ou 112, la période que je connais personnellement, c'est 1960-2015. Ça fait quand même 55. Oui, c'est ça. Donc c'est la moitié. C'est pas une expérience négligeable par rapport à la totalité de la période que j'évoque. Puis avant 1900, il n'y a vraiment rien. Dans le domaine où je suis un peu moins nul que dans le reste, je ne vois pas les progrès ni les transformations militaires, puisque c'est ça l'objet du séminaire d'aujourd'hui, être aussi rapides dans les années qui viennent que dans les années passées, et ceci bien que je n'ai pas parlé de l'arme nucléaire. Thank you.